Bonjour Fanny Ardant.
Bonjour.
Fanny Ardant, je vous ai entendu confier un jour en interview, moi, si je devais écrire une biographie, j'inventerais. Alors, est-ce que parmi tout ce qu'on va se dire au cours de cette conversation, il risque d'y avoir des choses inventées?
Oui. Mais quand on invente, finalement, on parle de soi beaucoup plus que des faits précis. Une biographie, quelquefois, c'est elle est née dans ce petit village, avec des choses presque retenues, comme pour les archives de la police. Alors que quand on invente, on dit d'une certaine façon ce qu'on aime.
Bon, alors on va dire ce qu'on aime. Fanny Ardant, est-ce que la réalité ennuie souvent les actrices?
Je pense pas qu'elle ennuie. La réalité, c'est toujours un choc. C'est ce qui nous fabrique, ce qui nous nourrit. Alors après, il y a deux façons d'affronter la réalité. Il y a de s'y perdre, ou de devenir amer, ou... Alors que la réalité, elle peut avoir comme en voiture, tout d'un coup, une cinquième vitesse, ou même une sixième, dans laquelle on la transcende,
oui.
Où on la romantise,
oui.
Où on la poétise.
Il y a déjà du romanesque dans le début de votre histoire, puisque vous êtes la fille du lieutenant-colonel Jean Ardant, et puisque vous avez passé votre enfance en principauté de Monaco, entre le palais et une institution religieuse dont la princesse Caroline, comme vous, fut l'élève. Mais j'aimerais bien savoir à quel moment de votre adolescence vous avez commencé à rêver d'un destin moins sage, un destin plus radical, plus exaltant.
C'est toujours difficile de savoir comment les choses commencent. Je sais que quand les autres me parlent de cette jeunesse, comme si elle avait été dorée, faite pour les magazines, alors que j'habitais une grande maison, j'avais des frères et sœurs, je n'avais pas d'amis, je lisais, je mangeais du chocolat. Et très vite, je ne concevais pas la vie en termes positifs, mais je savais ce que je ne voulais pas. Je commençais à rentrer dans la vie en disant... En élaguant, en disant jamais ça, jamais ça.
Vous dites que je n'avais pas d'amis. Vous étiez une enfant très solitaire.
Très, mais ça me plaisait. Mmh. Ça ne m'a jamais manqué. Je pense toujours qu'on a trop d'amis. Voilà, je me suis fait une idée peut-être de la vie à travers les livres. Souvent, je l'ai dit. Mais finalement, les grands romans, les grands auteurs, ils vous parlent de la vie mieux que pourrait vous parler un journal ou quelqu'un d'autre.
Bien sûr. Alors, avant de faire le grand saut et d'écouter votre vocation donc de comédienne, vous êtes sortie, Fanny Ardant, diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, avec une thèse, vous allez nous dire si c'est vrai, une thèse qui en dit long sur ce qui vous interpellait à l'âge de 20 ans. Vous avez fait une thèse sur l'anarchie.
Oui, puisque j'étais en sciences politiques, il fallait faire une thèse alors, pour clore le cycle des études. J'avais été très passionnée par... tout ce mouvement anarchiste, oui. Qui sous-tendait de rêves, d'absolu, presque utopique.
Oui.
Et comme il fallait toujours, à Sciences Po, il y avait toujours une sorte de dialectique, il fallait l'opposer à autre chose, donc je préférais l'opposer au surréalisme, parce que ça me paraissait aussi un mouvement dans l'art, beaucoup plus les dadaïstes, quelque chose qui disait tout d'un coup, qui cassait le miroir en éclats, on recommençait à zéro.
Mais... j'en reviens à l'anarchie, ce choix de thèse. Vous, la fille du lieutenant-colonel Jean Ardant, vous étiez fascinée par en fait tout ce qui pouvait non seulement échapper à l'ordre établi, mais le mettre en péril.
Parce que curieusement, j'ai été élevée par un père qui était officier de cavalerie,
oui.
Mais je crois que c'est lui qui m'a donné l'indépendance d'esprit, la liberté. C'est un cliché de croire qu'on est élevé en fonction de la fonction de ses parents. Alors, ton père est notaire, ton père est avocat, ton père est militaire, alors t'as dû être élevé à la cravache. Mais pas du tout, pas du tout. Il m'apprenait à penser autrement que l'ordre établi, les choses écrites dans les livres, les clichés transportés de génération en génération. Donc très jeune, ça m'a donné l'idée qu'on devait se faire soi-même sa propre vision des choses, sa propre... conviction. Quand vous me parlez de l'ordre établi, il y a toujours un ordre. On le reconstruit toujours. C'est ça qui peut être intéressant dans la trajectoire des gens.
Mmh.
C'est que comment on va faire pour quand même continuer sa route à travers des codes, à travers des lois, à travers... c'est assez passionnant de les détourner et de vivre contre.
Vous auriez été extrémiste si vous étiez engagée en politique?
Oui, j'aurais été très dangereuse.
Dangereuse carrément.
Oui. Parce que je pensais que la politique était liée à changer le monde. pas à se résigner et à s'arranger. Je crois que quand vous vous engagez dans la politique extrémiste, vous sacrifiez tout. Et votre vie, et vos amours, et vos enfants. Donc vous êtes toujours dans la clandestinité. Donc curieusement, moi qui suis quand même une grande égoïste et qui ai voulu faire ce métier au-dessus de tout, j'ai toujours eu de l'admiration pour ceux qui avaient brûlé leur vie pour une cause qui les dépassait.
C'est précieux comme confidence, Fanny Ardant, parce que justement, théoriquement, faire de la politique, c'est penser collectif. Alors que être actrice, c'est plutôt choisir un destin solitaire et narcissique. Donc vous aviez besoin d'être regardée et écoutée quand vous faisiez ces études politiques, quand vous faisiez Sciences Po. Vous étiez dans la quête absolue, mais il vous manquait quelque chose d'essentiel.
Ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense que quand j'ai fini mon bac, j'ai voulu tout de suite être actrice. C'est un chemin difficile quand vous êtes aimé par vos parents. Ils ne veulent pas vous voir dans la difficulté, les chimères. Donc ils m'ont dit, fais tes études d'abord, on verra après. Et qu'au fond, assez cyniquement, j'ai choisi Sciences Po parce que c'était les années qui duraient le moins longtemps. N'importe quelle licence durait 4 ans, Sciences Po durait que 3 ans. Donc j'ai été très passionnée par mes études. Et surtout, plus que tout, un peu comme vous disiez avant le début de cette conversation, pour le plaisir pur d'échanger des idées,
oui.
De parler,
oui.
D'être de la dialectique, la polémique, tout ça m'a beaucoup passionnée.
Vous dites parler. Alors, il y a ce vecteur magique qu'est la voix. Votre voix au timbre inimitable, cette voix faite pour dire des choses essentielles. Est-ce que vous aviez déjà cette voix-là à 20 ans, Fanny Ardant ?
Je me souviens pas. Il faudrait demander aux autres.
Parce qu'il paraît qu'elle a beaucoup intrigué le metteur en scène de votre toute première audition, votre voix. Il pensait que vous étiez étrangère.
Oui, il me disait que j'avais un accent. Et que lui en avait un pire, d'ailleurs. Et que je lui ai dit que je ne suis pas la seule et qu'il m'a renvoyée. On parle des accents.
Vous avez été renvoyée, pardonnez-moi de vous interrompre, mais à cause de votre voix au cours de votre première audition.
Oui, je pense que je ne sais pas si c'était une des premières. Et l'assistant du metteur en scène m'a dit, vous avez un accent là. Bah, j'ai dit, je ne suis pas la seule. Sortez. Bon, la vie, elle décide pour vous et il ne faut rien regretter.
Mais vous aviez conscience de la théâtralité de cette voix, de la dramaturgie lyrique de votre phrasé ?
Non. Je pense que la voix, c'est comme l'ombre qui vous suit, votre ombre portée. Il faudrait se retourner ou s'arrêter pour... Et encore, il faut... Non, la voix, c'est les autres. C'est pas moi.
C'est la façon dont ils l'entendent, c'est
oui,
ça ? En tout cas, vous avez une voix faite pour jouer les grands sentiments, pas les petits.
Bon, et en plus de ça, je préfère ça.
Est-ce qu'il est arrivé au début de votre carrière, Fanny Ardant, que des metteurs en scène vous demandent de transformer ce phrasé si singulier ?
Oui, dernièrement.
Dernièrement ?
Oui, je me souviens, et c'était très intéressant, dans Les Beaux Jours,
oui.
Marion Vernoux m'a dit de parler plus haut, plus avec un décibel plus haut, et je crois plus rapide, comme quelque chose de moins plombé.
Et vous étiez à l'aise ainsi ?
C'est toujours intéressant de changer quelque chose de vous. Parce que sinon, on est tous de nature obsessionnelle et on finit toujours par rentrer dans le même lit du même fleuve.
Il paraît qu'un jour, un inconnu vous a abordé en vous demandant si vous étiez Fanny Ardant. Et quand vous lui avez répondu oui, il s'est exclamé cette chose que je trouve surréaliste. Oh, vous avez exactement la même voix qu'elle.
Oui.
Donc en fait, vous n'appartenez pas à la réalité, Fanny Ardant.
Je ne sais pas. Oui, c'est très étrange. Ou alors, quelquefois, quand on pense qu'il y a des voix qu'on entend à la radio, moi j'ai toujours été fascinée par la radio, parce que c'est tout un monde imaginaire.
Vous auriez aimé en faire ?
Oui, beaucoup. Comme ça, des émissions où on est libre, où on peut parler, où on peut passer la musique. Oui, c'est un pouvoir inimaginable, la radio. Parce que moi-même, quand je l'entends, je suis dans mon lit, ou dans mon bain, ou je prends mon petit déjeuner. Et tout d'un coup, vous arrive quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ou un sujet que vous n'aviez pas décidé d'entendre. Non, la radio, c'est très fort. Donc peut-être que moi aussi, sur les voix des gens, il y a des voix qui m'ont fascinée, d'autres qui m'ont énervée. Regardez, vous savez, quand vous décrochez le téléphone, il y a aussi tout de suite quelque chose qui... C'est comme de l'eau chaude où tout d'un coup, vous faites confiance à celle qui vous reçoit.
Fanny Ardant, vous avez eu une enfance solaire entre le bleu de la Méditerranée et la lumière chaude du Sud. Alors, au début de cette conversation, vous nous avez avoué que c'était une enfance solitaire, une enfance plutôt verrouillée. Mais quel est le souvenir de cette enfance auquel vous êtes le plus attaché?
Ma famille. Cette maison-là, avec cette famille-là, ces pièces, ces chambres, ces salons, où j'étais très heureuse. Finalement, j'aurais pu être n'importe où. Vous parlez de la lumière, c'est vrai. Je me souviens, il y avait les jardins Saint-Martin, ça sentait l'eucalyptus. Et il y avait, oui, tout procédait de quelque chose. Vous avez dit le mot, solaire. Et j'étais bien.
Votre père était militaire de carrière, donc lieutenant-colonel. Quelles étaient ses responsabilités en principauté de Monaco?
Je sais pas, c'était... J'ai jamais bien compris.
Vraiment?
Oui, une sorte de... Il avait cette pureté. Il avait cette incorruptibilité. Il avait cette indépendance d'esprit qui faisait que peut-être ça tenait ensemble tous les morceaux du puzzle. Mmh. Il y avait d'autres lois, il y avait d'autres codes à Monaco. Souvent, comparer mon père et ma jeunesse, justement, comme si on avait été élevé par Cervantes, que lui, il avait quelque chose, pas Don Quichotte dans son absurdité, mais dans cette pureté de sa vision des choses.
Donc vous êtes bien la fille de votre père.
Oui.
Est-ce que le Palais Princier était un lieu qui vous était familier?
Oui, parce que finalement, moi j'ai cette vision de Monaco comme un village du Midi, le Rocher, avec une épicerie, une boucherie, un marchand de pain. Et le palais était comme une sorte de, voilà, la dernière salle.
Ouais.
Les rues étaient souvent étroites, on pouvait passer dans des ruelles où si on mettait les mains sur les hanches, on touchait les deux parois des murs.
C'est très italien, ça.
Très, ou corse.
Voilà.
Et... Il y avait ce jardin magnifique au-dessus de la mer, comme vous l'avez dit au début, la princesse Caroline, le prince Albert. Vous savez, l'enfance ne met pas des titres sur des choses. Mmh. L'enfance se vit avec les gens qu'on aime et les gens qu'on n'aime pas. Moi, pour moi, c'était un jardin.
Un jardin. Alors, il y a une chose qui m'intrigue, Fanny Ardant. Votre père, donc, est militaire de carrière. Votre mère ont tenu à ce que vous ayez une éducation plutôt stricte et rigoureuse, puisque vous avez fait vos études dans une institution religieuse. Et j'imagine que dans la France d'avant mai 68, les institutions religieuses étaient particulièrement austères. Mais quand on est pétri de tous ces principes-là, de toutes ces retenues, ces pudeurs, ces interdits, comment on accède à ce fameux lâcher-prise qui est nécessaire pour devenir une actrice ? Une fois que vous avez fait Sciences Po et que vous avez décidé de prendre à bras-le-corps votre vocation de comédienne, comment on se débarrasse de toutes ces retenues-là?
Je crois que justement, plus il y a contraintes, plus il y a développement d'un monde souterrain. Plus vous êtes dans des cordes et plus vous vous enfuyez ailleurs et que plus vous avez... votre façon d'être outsider. Parce que je pense que la contrainte, la liberté suprême, c'est malgré tout les ordres de ne pas en penser moins, de faire ce que vous voulez, de penser comme vous voulez. Après, il y a comme si extérieurement jouait un rôle et à l'intérieur, non identifié.
Mais vous étiez désignée comme rebelle à l'adolescence, Fanny Ardant, dans cette institution religieuse, ou bien vous jouiez le rôle qu'on attendait que vous jouiez?
Non, je pense que j'avais une sorte de pensée déjà, très à moi, et que je regardais. J'étais comme assise au bord d'un fleuve et je regardais les choses. Il y avait des choses qui me révoltaient, il y avait des choses que je trouvais ridicules. Mais voilà, moi je pense que j'ai fait mes écoles, pas mes études universitaires, mais j'étais à l'école.
Vous attendiez d'entrer en scène?
Oui, où j'attendais, j'ai pas aimé l'école. Donc j'ai pensé que c'était comme la prison dont on écopait de 11 ans, vous voyez, du jardin d'enfants jusqu'à la terminale. Et surtout, ma préoccupation, c'était de ne jamais rempiler d'un an en plus. Donc, de passer toujours, comme dans le concours épique, les chevaux qui frôlent les barrières, mais où rien ne tombe et qui, quand même, arrivent jusqu'au bout.
Mais je reviens tout de même à l'éducation, parce que c'est un corset social qui vous apprend à ne pas transgresser l'ordre établi. Donc, l'éducation, elle vous apprend le contraire de ce que vous allez mettre en pratique dans cette vie de comédienne. Ça a franchement été quand même très facile de faire ce que, soudain, des metteurs en scène vous ont demandé, alors que vous étiez pétri d'autre chose ?
Non, parce que je pense que quand je suis arrivée au cinéma ou au théâtre, c'était intact en moi. J'avais peut-être eu une éducation stricte, mais j'avais lu. Donc si on me parlait d'amour, ou si on me parlait justement, quand vous avez dit, de transgression, je savais. Dans ce monde parallèle de l'art, qu'il y avait d'autres mondes. Et que c'était ce monde-là qui m'intéressait. Donc au fond, c'est ce côté toujours de parallèle, de deux mondes qui peuvent se côtoyer et qui sont étanches.
Comment vous avez traversé mai 68 ?
En fait, j'étais pas à Paris, j'étais en Espagne, où justement les informations arrivaient très déformées, comme toutes les informations, où on disait qu'il y avait comme des ruisseaux de sang dans les rues. On avait exagéré ce qui se passait au niveau de la violence. En fait, c'était une révolution des idées, c'était une révolution des rêves, c'était une révolution des illusions. Donc, je ne l'ai pas vécu dans la rue avec des pavés. Je l'ai vécu, au fond, moi, je suis toujours... je prends toujours le deuxième train. C'est-à-dire, j'ai toujours un recul par rapport à l'actualité. Je pense que toujours, dans l'actualité, il y a quelque chose de manipulateur. Il ne faut jamais rentrer dans l'actualité de plein fouet ou de la commenter sans avoir du recul.
Est-ce que vous avez aimé vos 20 ans ?
J'étais pas très bien dans ma peau. J'avais, justement, je me rappelle d'avoir fêté mes 20 ans et je crois que j'étais à Londres. Et mon père m'avait souhaité bon anniversaire au téléphone et je pleurais. Et je lui disais « j'ai raté ma vie ».
Alors,
il me disait, t'as 20 ans et tu dis j'ai raté ma vie. Il y avait quelque chose, voilà, vous savez, comme on est dans les starting blocks, on attend, on trouve tout médiocre, on trouve tout, et soi-même en premier. Et donc.
Une impatience fiévreuse.
Oui, donc 20 ans, c'était pas. Voilà, je suis la princesse du monde, non pas du tout.
Fanny Ardant, en 1974, votre diplôme d'études politiques en poche, c'est sur les planches que vous êtes monté pour jouer les grands textes de Corneille, Monterland, Racine, Claudel. Alors, toutes les comédiennes, en fonction de leur jeu et de leur physique, ont un emploi presque immuable. Quel était votre emploi à vous ?
Bon, j'étais grande, j'étais brune, j'étais maigre, j'étais bizarre. Donc, tout a été difficile au début. Justement.
Difficile ?
Oui. Quand on vous parlait d'emploi, je pense que c'était quelque chose qui n'existe plus vraiment maintenant. Je pense que c'était au moment où il y avait le théâtre français, où il y avait une troupe. Alors on décidait que c'était des rôles joués par des brunes ou des blondes, des petites potelées rigolotes et des grandes tragiques.
Très cérébrales.
Et je pense que quand même, tout ça dépend finalement de celui qui décide tout. C'est la vision d'un metteur en scène. Un metteur en scène, il a ce pouvoir et cette liberté d'échapper au code et de comment raconter une histoire et de comment montrer cette histoire et de comment la distribuer. Ensuite, je me souviens justement que Alain René, distribuant Gérard Depardieu dans Mon oncle d'Amérique, alors qu'il avait joué souvent les hommes sortis de la force, et lui, il l'avait mis avec un petit costume à genoux devant son lit qui priait. Ça, pour moi, c'est le grand flair des grands metteurs en scène qui savent que chaque acteur, chaque actrice a plein de choses en lui. Et moi, tel metteur en scène dit « moi, je vais développer ça dans cet acteur ».
Et en même temps, comment fait-on pour rester fidèle à soi-même quand on est une actrice et qu'on passe sa vie à changer de peau ?
Ce qui est important, ce n'est pas de rester fidèle à soi-même, c'est d'être honnête. C'est d'être honnête avec justement ce que recouvrent les sentiments et les idées de ce personnage. Parce que je pense que justement les grands personnages, que ce soit au cinéma ou au théâtre, ils font appel à des archétypes, à ces types humains qui, nous, lancés dans la vie, on développe que peut-être un dixième des possibilités des caractères. Alors, on a ça dans nous, dans notre cœur, dans notre tête, et c'est comme si un metteur en scène vous donner un petit coup de pouce pour aller explorer une partie de vous-même que vous ne saviez pas que vous aviez.
Alors j'ai appris une chose que je trouve très romanesque, Fanny Ardant. Pendant de nombreuses années, vous avez habité à Paris le Trocadéro, et comme vous adorez vous poser sur les bancs publics, il paraît que dans les jardins du Trocadéro, non loin de la statue de Paul Valéry, se trouve un banc sur lequel, pendant des années donc, on a pu vous observer en train d'apprendre vos textes, et surtout les déclamer. C'est vrai ça? Les passants n'étaient pas surpris?
Alors, je pense pas que je déclamais. Je ne suis pas montée sur un banc comme Démosthène.
Mais j'entends bien. Mais en tout cas, à haute voix, dire vos textes.
Oui, ou comme ça, à mezza voce. Et que j'adorais, vous avez parlé de Racine, je me disais, où j'étais très influencée par les Russes qui apprennent des poèmes entiers. Comme ça, comme un trésor personnel qu'on garde en soi.
Comme un trésor personnel.
Qu'on jouera ou qu'on ne jouera pas, ou des poèmes justement de Mallarmé ou de Rimbaud, juste pour la beauté des choses.
Mais pour les passants, ça ressemblait à une scène de film, ils devaient chercher les caméras.
Non, mais parce que au fond, quand j'ai commencé, que j'apprenais, personne ne me connaissait. Donc si on m'a pris pour une femme qui parle aux pigeons ou aux chiens, tant mieux.
Fanny Ardant, on apprend facilement ces textes dans un jardin public. On n'est pas perturbé par la vie alentour, le vent caressant, les enfants qui courent autour de vous.
Peut-être si, mais que c'est justement toujours comme la vie s'engouffre dans les rôles. C'est mieux comme ça, pour pas dessécher tout. Comme si, dans ces phrases, même si ça serait des aveux d'amour ou des espoirs absolus, ou tout d'un coup, on laisse entrer des rythmes différents, on laisse entrer des respirations différentes. C'est toujours un moment difficile d'apprendre. C'est compliqué, la mémoire. Mais pour moi, c'était toujours un moment qui me rassurait. Parce que, mettons, si je disais, je prendrais 3 heures de ma journée, c'était ces 3 heures... comme un maçon ou comme un ébéniste qui fabrique son ouvrage comme ça dans son atelier, et ça rassure.
Est-ce que finalement, Fanny Ardant, vous êtes plus une comédienne qu'une actrice?
Je ne sais pas, parce qu'après, acteur et comédien, c'est devenu comme un nom commun. On peut dire à quelqu'un, t'es une actrice. Ou allez, comédienne, tu vois.
Menteuse professionnelle.
Absolument.
Vous aimez bien cette formule, hein?
Ah oui, beaucoup. Mais oui, parce que c'est un art, le mensonge. C'est comme les échecs. Il faut pouvoir prévoir les coups plus tard et ne pas s'être mis en péril avec quelque chose sur lequel quelqu'un plus fin que vous vous coincerait plus tard.
Vous en usez dans la vie de ce don pour l'enjoliver, justement?
Non, mais curieusement, je ne réponds jamais à une question directe. Ou si j'y suis obligée, alors là, je mens.
Fanny Ardant, les tragédiennes sont rarement blondes. Elles sont brunes comme Médée, comme la Magnani, comme la Callas. Vous, tout au long de votre carrière, vous avez été la longue dame brune du cinéma français. Et soudain, à l'occasion de la sortie du film Les Beaux Jours, la France, absolument stupéfaite, vous a découverte blonde. Blonde comme Marilyn, comme dans la tradition du glamour hollywoodien. Qu'est-ce qu'une brune qui devient blonde ose qu'elle n'osait pas avant?
Ah, je pense rien. Finalement.
Rien finalement?
Non, parce que, vous savez, on dit l'habit fait le moine, ce qui est assez vrai quelquefois pour les autres. Mais c'est toujours cette chose pour les autres, l'effet que ça fait sur les autres. Mais à l'intérieur de soi, si vous ne vous regardez pas dans une glace, rien n'a changé. Alors, cette blondeur, elle est venue justement pour un rôle, en discussion avec Marion Vernoux.
C'était le désir du metteur en scène, donc.
Oui, parce que c'était adapté d'un roman qui s'appelait La jeune fille aux cheveux blancs. Donc on avait essayé la blancheur, c'était encore plus sophistiqué. Donc on y est, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça? Et moi, justement, je n'ai pas envie toujours de ressembler à moi-même. Donc c'était comme un saut dans le vide, et je vais redevenir brune. C'était un moment comme ça, c'est un gros travail pour une vraie brune.
Mais vous nous dites ça au micro, alors je précise à tous les auditeurs qui nous écoutent que vous le dites en étant blonde aujourd'hui. Donc ça fait quelques mois tout de même.
Oui.
J'aimerais savoir le premier regard dans la glace, après le premier réveil le lendemain de cette métamorphose, qu'est-ce que vous êtes dit?
Mais moi j'ai toujours aimé les blondes au réveil. Je trouve qu'elles ont une pâleur, quelque chose de désarmé, démuni.
Moins guerrier qu'une brune.
Oui, parce que vous avez eu raison de parler de tout le code. C'est-à-dire, par exemple, dans les films d'Hitchcock, la blonde, c'était la jeune fille magnifique, la brune, elle était la méchante. Et puis, par contre, dans les films italiens, la brune, c'était la mamma, la femme sur laquelle on pouvait compter, et la blonde, c'était la perverse qui pouvait amener le danger. Donc, vous voyez, tous les codes, en fonction des pays, changent.
Mais alors, dernière question sur cette métamorphose. Comment ont réagi vos trois filles, Lumière, Joséphine et Baladine, devant cette mère inconnue?
Oui. Je crois qu'elles aimaient. Elles disaient qu'elles avaient quelque chose en disant de transgressif et que ça les amusait.
Alors en tout cas, Fenyardon, votre première apparition à l'écran, c'est en brune de caractère que vous l'avez faite, puisqu'il s'agissait du feuilleton intitulé Les Dames de la Côte en 1979, dirigé par Nina Companese, avec une affiche haute en couleurs. Il y avait autour de vous Edwige Feuillère, Françoise Fabian, Denise Gray, Francis Huster, vous ardente déjà. J'aimerais bien savoir, être révélée par la télévision, est-ce que ça aurait pu vous fermer les portes du cinéma ?
Je ne savais rien de tout ça. Nina Companese avait écrit une histoire magnifique, un personnage magnifique. Et au fond, comme j'ai jamais aimé les catégories ou les troupes ou les familles d'esprit,
oui.
Je pense que dès le départ, ça me donnait justement quelque chose. Je ferai ce que j'ai envie et que je ne serai pas cataloguée puisque... On passe son temps dans notre société à rentrer dans des familles. Vous avez parlé des emplois, vous avez dit ceux qui font du cinéma, ceux qui font du théâtre, ceux qui font... Et notre époque a bousculé les codes. Justement, c'était la grande indépendance d'esprit et la liberté de François Truffaut qui, m'ayant vu dans Les Dames de la Côte, et comme c'était un producteur indépendant, a dit « Je voudrais qu'elle joue dans ce film que je vais tourner avec Gérard Depardieu. » Donc vous voyez toujours... La vie, c'est la rencontre avec des gens qui sont assez libres pour pas être comme un petit toutou ou un petit mouton qui, chaque fois, ont quelque chose de créatif et d'inventif.
Sous la direction de François Truffaut, vous avez tourné deux films qui restent dans les mémoires. L'un s'achève en tragédie, La femme d'à côté, et l'autre est une comédie de genre, Vivement dimanche. À cette époque-là, vous étiez à la fois l'héroïne de ces films et la femme de sa vie. Qu'est-ce qu'on apprend d'essentiel sur le cinéma, Fanny Ardant, quand on vit avec un homme qui s'appelle François Truffaut?
On apprend que faire ce métier est un privilège, qu'il faut y donner... toute sa passion, son enthousiasme, toujours le faire pour des vraies raisons, et pas sans passion, sans foi. Je pense que ça, c'est une très grande marque des très grands metteurs en scène. Je n'aime pas quand on dit « Oh, c'est un métier que je fais depuis 20 ans, j'ai l'habitude ». Non, parce que c'est pas complètement un métier. Non, c'est quelque chose dans lequel on a des rêves, on a des... Mais qui, chaque fois, il faut tout remettre en cause. Je pense que la grande vulnérabilité, la grande sensibilité d'un metteur en scène, comme était François Truffaut, c'est qu'à chaque fois, il remettait ses billes en jeu. Il ne savait pas qu'il savait.
Fanny Ardant, vous avez au cinéma une image de femme fatale, rebelle, rétive, insoumise. Ça se construit par le choix des rôles, une image comme celle-là, ou bien la volonté n'est pour rien dans tout ça?
La volonté n'est pour rien. Non, je pense d'abord que on ne choisit pas, on est choisi. Il y a quelque chose qui se déroule, comme tout d'un coup, on verrait passer dans des trains dans une gare et on prend ce train-là, pourquoi, comment, où? On l'a pris. Moi, je crois beaucoup à l'instinct, au côté irrésistible. On ne pourrait pas ne pas faire ça. Mais croire que, d'une façon froide, de stratège, on a décidé ça, un peu de ceci, un peu de cela, comme si vous faisiez un cocktail de réussite. Non, ça, j'y crois pas.
Alors, il y a beaucoup de films italiens dans votre filmographie, Fanny Ardant. Vous avez tourné avec Antonioni, Ettore Scola, Zeffirelli, vous avez même vécu en Italie. Et quand vous parlez du cinéma italien, vous dites qu'il y a toujours un étonnant chaos sur les plateaux. La création dans le chaos, ça vous convient? Ça vous inspire?
Oui. Pour moi, le chaos, j'y trouve la concentration. Oui. Il y a eu d'autres tournages partout dans le monde où j'aimais justement cette espèce de création du monde où tout le monde parle et qui est préoccupé de cette chose qu'il doit faire, comme l'accessoiriste, le technicien, le travelling man, l'électricien, le machiniste, les bruits des barres qui tombent, tout ça. Et que voilà, moi, au contraire, ça me rassure, je vois que tout le monde est dirigé vers le même objectif avec sa vitalité. Alors, moi, je suis comme ça. Je comprends très bien que quelqu'un dise « Ah non, moi je peux travailler que dans le silence ». Mais chacun fait ce qu'il veut.
J'évoquais Zeffirelli. Pour Zeffirelli, vous avez incarné la Callas après avoir été la Callas au théâtre dans Masterclass. Mais ce que l'on ne sait pas assez, Fanny Ardant, c'est que la musique est partout dans votre vie, au point que le directeur du Châtelet, il y a 5 ans, vous a demandé de mettre en scène une opérette. Ce que vous avez fait.
Absolument. Ah, ça a été une très très forte expérience. Ça a été intense, mais en même temps, quand tout était fini, j'étais très mélancolique. Parce que je m'étais attelée à quelque chose où je ne savais pas. Mais en même temps, j'aime la musique, j'aime les chanteurs. J'ai beaucoup appris.
Comment dirige-t-on des chanteurs lyriques quand on n'est pas une chanteuse, on n'a pas fait de chant lyrique? Il y a des impératifs qui sont spécifiques à ce genre de mise en scène.
Oui, oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, je demandais aux chanteurs ou aux chanteuses, est-ce que ça, vous pouvez? Moi, je suis très admirative des chanteurs d'opéra. Vous parliez de Callas. Parce que je disais toujours, un chanteur d'opéra, un grand chanteur d'opéra, c'est un acteur et une actrice avec ça en plus, de la musique, de la voix. Si vous devez chanter Lady Macbeth, vous savez que vous avez ce contrut très difficile. Donc, c'est quelque chose en plus. Mais vous devez être un acteur pour faire passer l'émotion de ce personnage.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Fanny Ardant, à quoi rêvent les actrices quand, sur un tournage, elles passent des heures, des jours et des nuits à attendre dans une loge ou dans une caravane?
À tout. Il y a quelque chose un peu que quelquefois on est surtout dans les scènes difficiles, comme sur un starting block ou comme les GI le jour du débarquement. On attend. Donc c'est quelque chose pour moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait flirter avec l'insouciance, flirter avec l'inimportance pour pas être trop concentré, que voilà, on s'est mis trop de pression. Donc c'est un doux flirt entre justement ce que je vous disais tout à l'heure, laisser la vie s'engouffrer, des petites conversations d'un technicien ou d'un autre acteur qui va vous faire rire et qui, d'une façon étrange, va peut-être avoir l'air de vous divertir de cette chose que vous allez faire. Mais
Et pourtant.
Et puis, vous savez, au cinéma, on se fait une idée des choses, une scène, mais après, il faut se rendre compte que quand on arrive au moment de jouer, il y a l'autre. Il y a l'acteur ou l'actrice, le regard, la façon dont cet homme ou cette femme va vous regarder et qui finalement va changer toutes vos idées préconçues.
Alors, il y a des actrices au tempérament fort qui ne veulent pas réaliser de films et devenir le chef de troupe. Je pense à Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Carole Bouquet, Nathalie Baye. Vous, Fanny Ardant, pour la seconde fois, vous devenez le chef de troupe sur un long métrage que vous avez imaginé et que vous avez réalisé. Est-ce qu'il faut une énergie virile pour ça?
Je pense que vous parlez d'énergie, oui, mais si je pense à l'énergie de Golda Meir, c'est des sacrées énergies. Voilà. Après, viril ou pas viril, je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir la foi. Et je crois qu'il faut aussi, vous savez, écouter Quand je vous ai dit qu'un tournage était tout le monde tendu vers le même but, ouais. Et qu'avoir un chef opérateur, une décoratrice, une costumière, les acteurs, tout ça qui ont pris ce bateau qui va s'ébranler, alors les entendre, les écouter, et puis finalement dire oui, non, peut-être, jamais. Voilà. C'est... Et que chaque jour est une nouvelle journée. Moi, j'ai appris ça. Il ne fallait pas se désoler de ce qu'on avait raté. On dit, il faut se dire, j'y penserai plus tard.
Concrètement, comment ça se passe pour déclencher l'aventure d'un film ? Vous présentez le scénario que vous avez imaginé à l'avance sur recette, et s'il est accepté, le producteur, l'équipe technique, le casting rêvé, enfin tout s'enchaîne ?
C'est pas comme sur un tapis roulant.
Je résume pour aller vite, mais...
Oui, j'écris d'abord, et souvent j'écris quand je joue au théâtre, ou quand je pars en tournée. En tout cas, ces longues après-midi dans les hôtels.
Alors voilà ce que font les comédiennes quand elles attendent des jours et des nuits dans leur loge.
Oui, et que moi, on me demande toujours pourquoi vous avez décidé de devenir metteur en scène, mais je n'ai pas de réponse à ça. C'est toujours une aventure du début, au moment où on commence à écrire sur la page blanche, jusqu'à la fin.
Alors parlons de ce film qui vous ressemble. Ce deuxième film dont vous êtes l'auteur, Cadence obstinée, est un film très latin, très sensuel, sombre. Une femme a abandonné sa brillante carrière de violoncelliste pour l'amour d'un homme. Mais cet homme a un contrat à remplir, contrat qui ne peut pas s'encombrer d'amour. On n'aime jamais de la même façon en même temps.
Exactement. Je pense que les temps de l'amour se contredisent. Il y avait cette fameuse phrase « tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis ». Mais là, c'est une histoire d'amour qui commence à prendre de la lassitude et de l'arrangement avec la vie, alors que ce personnage principal, Margot, volontairement, j'ai voulu en faire une violoncelliste parce que je pense qu'une instrumentiste, c'est tout ou rien. Mmh. La musique ne supporte pas la médiocrité. Mmh. Ou vous jouez un si parfait ou vous ne le jouez pas. Et le violoncelle encore peut-être plus que le piano. Mmh. Et donc, j'ai voulu faire de cet personnage, en effet, vous avez dit, en quête de l'amour absolu, mais qui, par cette démarche, va peut-être détruire ce qu'elle voudrait conserver intact.
Elle vous ressemble de façon troublante, Asia Argento, dans ce film, Fanny Ardant.
Vous trouvez ?
Oui.
Bon, parce qu'elle est brune. Et que j'admire beaucoup Asia, parce que c'est une personnalité très forte, très rock'n'roll, très wild, sauvage.
Insoumise.
Oui, très intelligente, très cultivée. Et que, forcément, comme je vous ai dit, on est de nature obsessionnelle. Autant moi je peux être disponible pour un rôle, autant dans mon film, je tourne ce que j'aime. Et que j'aime le noir, j'aime les femmes très maquillées, j'aime les femmes avec des talons hauts. Et j'ai demandé à Asia, est-ce que vous voudriez tout ça ? Elle me disait, ah oui. Et j'aime beaucoup les accents, donc je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez parler le français, même avec votre accent et tout. Elle a dit oui à tout. Elle a été très, très disponible. Et ça, c'est magnifique.
Vous avez fait de votre héroïne une musicienne, oui. La recherche de la note absolue, juste, parfaite. Dans la vie, Fanny Ardant, vous jouez du piano, mais votre héroïne, elle, joue du violoncelle. C'est un instrument à la fois plus charnel et plus physique, le violoncelle.
Oui, peut-être, parce que vous l'embrassez.
Et plus facile aussi, peut-être, à filmer.
J'ai joué beaucoup au théâtre avec la violoncelliste qui fait les musiques du film, qui est Sonia Vider-Atherton. Oui. Je me souviens dans les villes, au Liban. Et j'étais toujours presque derrière elle. Et j'avais trouvé que c'était tellement beau de voir ce corps embrassant cet instrument. Et la musique venait de quoi ? De son cœur, des cordes, de son corps vibratoire. Donc quand j'ai voulu filmer Asia Argento qui travaille son violoncelle, je voulais ça. Je voulais pas qu'on soit diverti par trop les doigts. Alors est-ce qu'elle joue vraiment ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce qu'elle fait bien ? Je voulais pas. C'était pas ça qui m'intéressait. C'était cette femme qui, au fond, avait abandonné sa carrière, mais qui était restée ce que j'appelle, moi, une artiste. C'est-à-dire qu'il ne perd jamais de vue cette recherche de l'absolu dans un art qu'elle pratiquerait même pour personne, pour elle-même, entre elle et elle.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet sur Europe 1.
Feignardant, on a tendance à imaginer que les actrices sont plus des femmes d'extérieur que d'intérieur. Vous, est-ce que vous aimez passer du temps seule chez vous? Ou bien est-ce que vous avez toujours mieux à faire en arpentant Paris sous prétexte d'aller dans une librairie, un musée, un jardin?
J'aime beaucoup rester allongée sur un lit et lire.
Il paraît que vous éprouvez une griserie très particulière à passer du temps dans les librairies, notamment celle qui est à deux pas de la Sorbonne, votre librairie préférée qui s'appelle La Compagnie. Alors quel genre de livres, quels auteurs ramenez-vous à la maison, par exemple en ce moment, Fanny Ardant?
Là justement, je n'avais pas le temps d'aller souvent dans les librairies. Je me suis rendu compte que j'avais dans ma bibliothèque beaucoup des choses dites classiques.
Oui.
Et que justement, c'était Terescola. Quand je lui demandais au téléphone, qu'est-ce que tu lis? Il disait, je relis. Et alors, ça m'a donné envie. Et que tous ces romans qu'on lisait trop jeunes, Stendhal, Balzac... Ou... Moi, j'ai été très frappée, justement, par Balzac. Mmh. On disait, ah oui, mais il y a des descriptions qui durent des heures. Mais tout d'un coup, quand vous les lisez avec son esprit derrière, ou ironique, ou passionné... Donc, j'ai relis, par exemple, Béatrix. Et c'est un roman fou, d'amour fou, et puis aussi presque surréaliste. Voilà, je pense que une librairie, c'est une promesse de bonheur, et justement, j'aime beaucoup La Compagnie parce que on peut presque y aller en chemise de nuit. On est très près. On se dit, vous pouvez me le commander, on sait que ça va arriver. Il y a des escaliers, on peut s'enfoncer. On ne sait pas avant et après. On s'est dit, bon, allez, j'ai pris des munitions ou j'ai pris de la drogue pour un petit temps.
On vous voit souvent flâner dans les jardins du Palais Royal ou sur les berges de la Seine, en contrebas du quai de Montebello, face à l'île Saint-Louis. Est-ce que vous auriez du mal à vivre loin de Paris, Fanny Ardant?
Oui. Ah oui, j'adore Paris. J'aime l'idée d'appartenir à Paris parce que... Il y a la beauté, justement. Vous parliez de l'île Saint-Louis. Quelquefois, vous pouvez avoir un chagrin et traverser les ponts. Vous savez, ces ponts derrière le chevet de Notre-Dame. C'est la beauté absolue. Et vous dites, quand vous pensez qu'il y a des gens qui font 20 000 km pour voir cette beauté en passant. Et là, vous
en passant.
Oui. Parce que là, vous pouvez tous les jours y aller d'un point A à un point B. Et pendant un temps, vous savez bien que la beauté console.
Fanny Ardant, vous dites... La plus grande couronne sur un personnage, c'est sa liberté. Vous n'avez jamais eu la tentation d'être protégée?
Bien sûr.
C'est une tentation très féminine, ça.
Bien sûr. Absolument. Je pense toujours que tout a un prix. Être protégée, tout le monde a envie de ça. Mmh. C'est comme si vous demandiez à un hérisson d'enlever ses piquants. Donc il y a quelque chose... On est vulnérable. Mais c'est une histoire de choix. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais de prosélytisme. On ne change pas sa nature.
Merci infiniment pour ce voyage absolument magnifique, comme ça, sur le fil de la mémoire. Je vous dis très vite, Fanny Ardant.
À très vite, je vous remercie.